Mais que la paix de Dieu, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, comme je viens de le dire, soit le partage de nous tous et que son nom soit béni. Et nous allons maintenant ouvrir la Bible. Et notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, il a mis dans mon cœur ce sujet ô combien important. Hier soir, dans la méditation que nous avons eue, Dieu nous a arrêtés dans les pâturages célestes et il nous a menés à considérer, en tant qu'enfants de Dieu, les cinq sources du bonheur de l'enfant de Dieu. Cinq sources du bonheur, mais ce n'est pas le thème de la méditation de ce matin. Ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 12. Le psaume 12, et si nous regardons le psaume 12, et que nous nous arrêtons au verset 6, nous allons trouver là ce qui va constituer l'entrée en matière pour ce moment de méditation dans la parole de Dieu, au travers duquel Dieu, notre Père, permettra que la nourriture autant convenable soit donnée à son enfant comme brebis du pâturage de Jésus. Et le psalmiste mentionne les choses ainsi. Déjà, c'est un cantique qu'il compose sur la harpe à 8 cordes. Et il commence, à partir du verset 2, à exposer les choses en s'adressant à Dieu. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. On parle avec un cœur double. Et puis il continue. L'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Donc voilà l'exposé que fait le psalmiste. Certainement par rapport à une ou des situations que non seulement il aurait connues, ou encore mieux qu'il aurait vécues, et qui nécessiterait qu'il puisse exposer devant Dieu son vécu et ce que malheureusement il a été, à quoi il a été confronté. Et en même temps qu'il a dû affronter. Et puis voici que, pour continuer la lecture, nous voyons après qui serait notre maître, une question, un petit tiret. Et logiquement, nous aurions dû voir avec le petit tiret, un mot qui, dans le psaume, dans cet psaume, est mentionné, pause. Et lorsque nous voyons mentionné pause, cela veut dire que Dieu a entendu et maintenant il va répondre. Alors, regardez la suite. Voici la réponse qui arrive. Verset 6. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Après, maintenant dit l'Éternel. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffre. Et là, on peut dire amen. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève. Et vous remarquerez que Dieu n'a pas dit « je me leverai ». Mais il a dit, Cela veut dire la différence entre je me lèverai, cela peut ressemblerait à une promesse, mais cela aussi me transporterait dans le futur. Mais quand Dieu dit je me lève, cela veut dire c'est maintenant. Et ce matin, je crois que notre Seigneur voudrait s'adresser en particulier à une catégorie de ses enfants. Laquelle? Eh bien, cette catégorie-là, je la noterai ou la nommerai à ceux qui sont victimes d'injustice. Voyez-vous qu'un enfant de Dieu peut être victime d'injustice? Bien sûr, ça peut se faire en dehors de l'Église, mais il arrive aussi que ça peut se faire. Mais le psalmiste, ou au travers du psalmiste, Dieu va nous donner ce matin à considérer ce qui advient lorsqu'un enfant de Dieu est victime d'injustice. Voulez-vous voir avec moi une chose importante, frères et sœurs en Christ? Mais avant de le regarder, je voudrais que nous continuions un petit peu plus bas dans la lecture. Donc je reprends le verset 6 avec vous. Voulez-vous le prendre avec moi? Psaume 12, verset 6. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève et j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffre. Et derrière ce mot salut, Dieu ne peut pas t'apporter le salut puisque tu es victime d'injustice, puisque le salut, tu es déjà entré dedans. Et derrière plutôt ce mot salut, entrevoyez et comprenez l'intervention pour donner le secours dont tu as besoin. Mais entrevoyez aussi derrière ce mot salut comme une réponse que Dieu donnerait à une prière que tu lui as adressée dans l'injustice ou à cause de l'injustice. Voyez aussi, frères et sœurs en Christ, un désir divin de mettre un terme à cette injustice dont tu es victime et qui malheureusement, dans son fonctionnement, peut être une cause de souffrance pour toi, comme ce matin. Et quand tu es victime d'injustice, cela pourrait consister aussi en un frein à ton élan spirituel, une difficulté dans ta marche avec Jésus, quelque chose qui occupe ton esprit, qui te noue la gorge et qui, malheureusement, dans son fonctionnement, peut t'amener et friser, excusez-moi du terme, la porte d'un début de dépression. Comment ça, pasteur gentil, dans l'église vous... Oui, un enfant de Dieu victime d'injustice peut se retrouver aux portes de la dépression parce que les choses ne changent pas. Oh, ça n'a pas changé jusqu'à ce que ce matin, Dieu te dise, maintenant je me lève. Et quand Dieu dit maintenant, ce n'est pas demain, hein? Ce n'est pas après-demain, c'est maintenant. Amen. Alors regardez avec moi, frères et sœurs en Christ, un psaume qui va nous éclairer sur ce que Dieu veut que nous partagions. C'est le psaume 34. Et en prenant l'écriture, je vous prierai de faire attention à ce que vous lisez. Je vais insister pour que vous attachiez de l'importance à ce que vous lisez, pour que le Saint-Esprit non seulement nous éclaire, mais aussi nous fasse comprendre ce que Dieu veut que nous comprenions. Gloire à Dieu. Alors, regardez avec moi, frères et sœurs en Christ, le psaume 34, et lisez avec moi le verset 7. Je vous laisse lire. Hein? Lisez le psaume 34, verset 7. Bien. Alors, vous avez lu, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et vous avez continué la lecture, et il le sauve de toutes ses détresses. Est-ce que vous dites amen à cela?
Amen.
Bien. Mais regardez maintenant le verset 18 du même psaume. Et comme vous avez lu le verset 7, lisez le verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de leur détresse. Pour le malheureux qui crie, l'Éternel entend. Et le verbe qui est mis en rapport avec le malheureux qui crie, c'est le verbe sauver pour le faire rentrer dans son salut par la révélation du sauveur qui s'appelle Jésus-Christ. Mais quand le juste crie, c'est qui le juste? C'est celui qui a été justifié par la foi, par l'œuvre accomplie par Jésus. Amen. Donc il a changé de rang, il n'est plus comme un malheureux qui ne connaît pas Dieu, mais c'est un juste qui a expérimenté la grâce de Dieu. Alors quand le juste crie, quand ça arrive qu'un juste crie, surtout quand il est victime de l'injustice, alors l'Éternel entend. Et là maintenant, ce n'est plus le verbe sauver, mais c'est le verbe délivrer. Alors j'ai compris que derrière ce mot délivrer, eh bien, je crois que notre Seigneur veut simplement manifester dans sa grâce sa capacité de mettre en place l'arrêt du processus qui cause l'injustice. Et aussi, me délivrer de ses conséquences. Écoutez, frères et sœurs en Christ, nous sommes le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Ce matin, nous sommes devant Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu sonde les cœurs et les reins, il connaît la vie de chacun d'entre nous, comme ses enfants. Savez-vous, frères et sœurs en Christ, que dans un foyer, dans un couple, l'épouse peut être victime d'injustice de la part de son mari? Comment ça, pasteur gentil, dans un foyer chrétien? Oui! Dans un foyer d'enfants de Dieu, l'épouse peut être victime d'injustice de la part de son mari. Mais vice-versa aussi. Oh, je sais que ce que je dis peut ne pas plaire à quelqu'un. Mais vous comprendrez bien que ça plaise ou pas. Je ne suis pas là pour chercher à plaire aux hommes. Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Je dis ce que le Saint-Esprit veut que je dise au peuple de Dieu que nous sommes. Bien, donc on a vu les deux différences. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de ses détresses. Mais que c'est le juste qui crie? Il le... Alléluia. C'est-à-dire, il délivre, c'est-à-dire, une fois qu'il est intervenu, il passe comme un coup de balai. Il nettoie. Il dégage. Il élimine. Il détruit ce qui causait l'injustice et il me débarrasse en même temps des conséquences de l'injustice que j'ai subie. Gloire à Dieu. Alors revenons à notre psaume, frères et sœurs en Christ. Et voyons ce que le Père Céleste veut nous communiquer au travers de sa parole. Si cette parole que nous avons lue, donc le psaume 12, pourrait constituer derrière ce maintenant un moyen divin de nous situer ou de nous placer dans un rapport avec le temps, c'est pour nous montrer que notre rapport avec le temps n'est pas celui de Dieu avec le temps. Il y a un proverbe, c'est pas un proverbe, une remarque qui est faite parmi les Berbères, les gens du désert. Ils ont coutume de dire, en Europe, vous avez les montres. Vous avez la montre,
Mais nous, on a le temps. Parce qu'ils n'ont pas de montre, particulièrement pour pouvoir se situer. Ils ont tout le temps. Mais nous, en Europe, nous avons les montres. Et il est important pour nous, dans le rapport avec le temps, de nous situer par rapport à ce que nous voudrions faire. Mais regardez avec moi un peu plus loin dans le texte que nous partageons pour comprendre. Pour David, dans son expression qui ressemblerait autant à une déclaration que Dieu, dans ce qu'il lui dit, veut le situer, mais cela pourrait aussi correspondre, pour David, à une réponse de Dieu suite à une prière qui lui a été adressée dans le temps où on subit l'injustice. Quand vous savez, vous subissez une injustice, le premier à qui vous adressez, ce n'est pas au pasteur. Hein. Le premier à qui vous devez vous adresser, c'est à Jésus-Christ. Vous savez, frères et sœurs en Christ, nous connaissons notre Seigneur Jésus-Christ. Hein. Vous savez, Jésus peut comprendre quelqu'un qui subit une injustice parce que lui-même, il en a été une victime et à nul autre pareil. Je lisais dans l'évangile de Jean comment il a été déclaré concernant Jésus, notre loi condamne-t-elle un homme si l'acte de condamnation n'a pas été vérifié? Il fallait trouver des témoins. Et c'est sous la déclaration d'un certain nombre de témoins qu'on pouvait déclarer coupable celui qui était amené en accusation. Mais pour Jésus, on a fait des recherches. Pour Jésus, on a fait des investigations. Et le Sanhédrin n'a trouvé personne pour accuser Jésus. Donc Jésus a été accusé injustement. Jésus a subi la plus grande de toutes les injustices, mais il a accepté. Parce que c'était le plan de Dieu pour que nous soyons sauvés. Alors qui peut mieux que lui, qui a été victime d'injustice, comprendre la situation qui est la tienne, eu égard à l'injustice que tu subis et qui peut venir merveilleusement à ton secours. Première prière, c'est le psaume 13, versets 1 à 3. Où nous voyons l'expression du psalmiste qui mentionne quatre fois l'expression « jusqu'à quand ?» Il s'exprime de cette manière pour spécifier un peu ce qui se ressemblerait un peu pour lui au retard supposé à l'intervention de Dieu attendu. Et puis, en continuant, il adresse à partir du verset 4, dans le psaume 13, le voici qui adresse à Dieu une prière. Regarde, regarde, et après, qu'est-ce qu'il dit? Réponds-moi, qui, Éternel mon Dieu? Éternel, tu as des yeux, vois. Mon Dieu, tu as des oreilles, entends. Mais par ta grâce, puisque tu vois et que tu entends, je t'en supplie, interviens. Et mets un terme à la malice des méchants. Mets un terme à leurs actions. Mets un terme à leurs propos. Seigneur, Seigneur, prends les choses en main, afin qu'enfin ça cesse et que tu me donnes du repos. Regardez. Donc il adresse la prière à partir du verset 4. Réponds-moi éternel mon Dieu. Mais il est conduit à dire, donne à mes yeux la clarté. Et quand tu subis l'injustice ou quand tu es une victime, tu as aussi besoin de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le discernement pour que je comprenne. Ce n'est pas autant la clarté des yeux là. Transposons ça sur le plan spirituel, c'est que dans l'injustice, il ne faut pas que dans ton esprit les choses soient floutées ou floues, ou que s'installe le trouble produit par l'incompréhension. Mais même si, Seigneur, je subis une injustice, je te demande de m'éclairer. Éclaire-moi, donne-moi la clarté pour que je comprenne et discerne ce à quoi je suis confronté. Afin que mon ennemi, d'abord afin que je ne m'endors pas du sommeil de la mort,
afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Mais malgré que je subis l'injustice, le verset 6, l'expression qui est mentionnée, moi, malgré l'injustice que je subis, Seigneur, moi, dites avec moi, j'ai confiance en ta bonté, alléluia. Moi, j'ai confiance en ta bonté. C'est ce qu'exprime la foi. J'ai confiance en ta bonté et j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Et puis, la fin du verset nous amène sur un présent. Je chante à l'Éternel car il m'a fait. Alors, pourquoi il chante? C'est parce qu'il a été délivré de ce qu'il subissait. Eh bien, je crois que ce matin, Dieu veut que si tu es entré dans le culte, le cœur attristé, l'esprit abattu, après que Dieu t'ait donné sa parole, tu vas sortir en le glorifiant. Amen. Tu vas sortir en le bénissant. Tu vas célébrer l'Éternel par tes louanges. Célébrez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Gloire à Dieu. Alors, regardez avec moi maintenant dans la liste des prières. Dans le psaume 9, psaume 9, première prière adressée à l'Éternel par le psalmiste, c'est le psaume 9, verset 19. Car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance d'un misérable ne périt pas à toujours. Verset 20, prière, lisez. Lève-toi, Éternel, et que l'homme ne triomphe pas. Qui ne triomphe plus? S'il a triomphé, qui ne triomphe pas? Il ne triomphe plus. Ça veut dire mettre un terme au triomphe de celui qui domine. Celui qui domine et qui malheureusement fait des actes d'injustice, si cela n'est pas répréhensible par ses supérieurs, eh bien, Dieu a horreur de l'injustice, surtout si cela est fait à l'encontre d'un de ses enfants qui est à ses yeux injuste. La prière du psalmiste éternel. Lève-toi. Gloire à Dieu. C'est une prière qu'il adresse. Lève-toi. Et quand il a adressé la prière, le psaume 12, verset 6, maintenant, dit l'Éternel, maintenant je me lève. Il a prié. Mais entre le temps de la prière et le temps de l'intervention, il peut avoir une certaine distance. Je vous ai dit qu'avec Dieu, il y a le rapport avec le temps. Maintenant, je me lève et j'apporte le secours, le salut, l'intervention, la délivrance, le relèvement, la guérison à celui contre qui l'on souffre. Il y a une deuxième prière que le psalmiste adresse à Dieu. Qui se trouve dans le psaume 10. Psaume 10, verset 12. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Lève-toi, ô Dieu. Lève-toi, Éternel. Ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Alléluia. Relisez-le avec moi, s'il vous plaît. Lève-toi, Éternel. Ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Alléluia. Et lorsqu'il dit à Dieu, lève ta main, cela veut dire, Seigneur, vous savez, quand Dieu lève sa main, c'est un moyen pour lui de me montrer sa capacité d'intervenir, mais aussi son intervention. Tant qu'il n'a pas bougé, rien ne se passe. Mais quand il lève sa main, enfin, derrière l'expression « lever sa main », vous avez compris que le psalmiste veut dire « à Dieu manifeste ta puissance ». Glorifie ton nom. Agis, Seigneur, je veux voir le résultat de ce que tes mains font pour me délivrer de l'injustice. Lève ta main. Bon, écoutez, si j'ai les mains dans la poche, il ne se passe rien. Mais quand je sors la main de la poche, et que tu es devant moi et que tu es en train de m'embêter, si tu continues, tu vas en prendre une. Ah, ça, c'est pour l'expression humaine. Ça veut dire que quand la main se lève, obligatoirement, la main qui s'est levée va entrer en action. Alors, si sur un plan humain, les choses se passent ainsi, quand le psalmiste dit à Dieu, lève ta main, ça veut dire qu'il veut voir le résultat produit par l'intervention de Dieu. Deuxième prière. Première prière, lève-toi Éternel et que l'homme ne triomphe pas. C'est-à-dire, mets fin à ses actions. Seigneur, bloque-le de son intervention. Dégage-moi de sa vue afin que, comme responsable, il arrête de me faire subir des atrocités qui ne sont pas autre chose que ce qu'on appelle du harcèlement moral. Vous savez, ce matin, il y a dans l'église des frères et sœurs qui sont victimes de harcèlement moral dans leur travail. Hein. Je sais, vous me direz, pasteur gentil, drôle de message. Eh bien, écoutez, dites-le à Dieu. C'est ça qu'il a voulu que je partage avec vous ce matin. Et lorsqu'un harcèlement moral dure et perdure, celui qui en subit les conséquences, malheureusement, peut se retrouver, excusez-moi du thème qui n'est pas du tout évangélique, aux portes non seulement de la dépression, mais friser le burn-out. On va au travail, mais on y va non pas avec joie, mais on y va à tâtons parce qu'on sait ce qu'on va subir. Frères et sœurs en Christ, puisqu'il y a quelque temps, j'avais reçu, il y a quelques années déjà, je reçois une bien-aimée sœur qui était victime de ce type d'action dans son travail. Alors, je lui ai fait asseoir dans mon bureau, je lui ai posé une question. Ma sœur, avez-vous commencé à prier pour ce supérieur qui a fait de vous une cible et qui n'arrête pas de vous maltraiter autant par ses propos que par ses actions? Avez-vous commencé à prier pour cette personne? Bon, c'est la dernière chose qu'elle aurait voulu entendre. Mais quand je lui ai dit ça, j'ai fait quoi? Je l'ai amené à l'écriture. N'est-ce pas? Même si elle ne veut pas l'entendre, mais je lui ai dit ce que Jésus voulait qu'elle fasse. Le Seigneur, dans son enseignement, nous a dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous font du tort. C'est ainsi que vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Écoutez, ce que Jésus nous dit, ce n'est pas autre chose que ce qu'il a vécu à la croix du calvaire. Luc 23, verset 33. Écoutez, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que deux brigands avec lui. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus demande à Dieu de pardonner ses bourreaux parce qu'il met leur action au compte de leur ignorance. Ils savaient bien ce qu'ils faisaient. Ils étaient d'accord de le faire. Et Dieu a laissé faire. Parce qu'il fallait qu'un innocent paye pour les coupables. Vous me direz, pasteur Gentil, mais pour arriver à ce degré, il faut vraiment être supraspirituel. Je vous l'accorde. Mais je vais vous parler d'Étienne. Étienne, disciple de Jésus-Christ, homme engagé dans l'œuvre de Dieu derrière Jésus, est amené devant une coalition politico-religieuse appelée du temps de Jésus le Sanhédrin. Et lorsque le Sanhédrin a, ou lorsqu'il était devant le Sanhédrin, qu'a-t-il fait ? Il a fait une historique de l'histoire du peuple de Dieu de la sortie d'Égypte jusqu'à leur entrée en Canaan. Il a continué pour montrer que Dieu a envoyé des prophètes, après il a établi des rois pour arriver jusqu'à Jésus. La Bible nous dit que les membres du Sanhédrin, écoutez, ayant fixé leurs yeux sur Étienne, son visage leur apparut comme le visage d'un ange. Ça veut dire que Dieu avait mis une grâce particulière sur son serviteur, malgré le fait qu'il était amené en jugement devant les hommes appelés Sanhédrin, groupement politico-religieux. Et puis lorsque Étienne a rendu témoignage de Jésus, à un moment donné, la Bible nous dit que Étienne a dit, je vois le ciel ouvert et Jésus debout à la droite de Dieu. Ils ont bouché leurs oreilles, ils ont poussé des cris. Ils ont pris des pierres et ils ont commencé à lapider Étienne. Quelle parole Étienne a prononcée ? Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ça veut dire, Seigneur, l'injustice que je subis, la lapidation que je reçois de leur part avec les coups de pierre, qui vont progressivement m'entraîner vers la mort. Seigneur, ne mets pas cette action, ce péché à leur compte, parce que le verbe imputer signifie mettre au compte de quelqu'un ce qu'il a commis. Ça veut dire, Étienne a le même langage que Jésus qui demande à Dieu de pardonner ses bourreaux. Étienne dit à Dieu, ne mets pas ce péché à leur compte. Puis, la Bible nous dit que Étienne, après avoir dit ces paroles, Étienne s'endormit. Mais il s'est endormi en ne laissant pas un péché dominer sous son esprit, sous son cœur, ni entrer en lui. Il a demandé pardon à Dieu pour ses bourreaux. Es-tu capable de dire à Dieu de pardonner à ton détracteur, ton supérieur qui te fait subir des outrages, qui te maltraite parce que tu es un enfant de lumière et que la lumière qui est en toi est insupportable pour lui? Il faut que tu montes vers les hauteurs. Fais comme ton maître a fait. Et laisse ton maître maintenant te faire justice. On continue? Vous ne croyez pas que ce matin le Seigneur nous conduit sur un pâturage particulier? Oui, oui, oui. Mais comme je vous le dis, hein, ce n'est pas le pasteur gentil qui décide, c'est Jésus qui décide. Et quand Jésus décide quelque chose, il fait ce qu'il a décidé. Troisième prière. Ça va toujours? Troisième prière. Troisième prière. Nous allons la trouver en regardant le psaume 7 au verset 7. Le psaume 7, verset 7. Lisez avec moi, partageons l'écriture. Psaume 7, verset 7, lisez. Ah, lève-toi, Éternel. Lève-toi, ô Éternel, Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires.
Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Et puis, si vous regardez un petit peu plus bas, à partir du verset 10, qu'est-ce qu'il dit à Dieu en lui demandant de se lever? Verset 10, lisez. Ah, mets un terme, Seigneur. Mets un terme à la malice des méchants. Mets un terme à la malice des méchants. Et je crois que ce matin, Dieu est en train de travailler pour mettre un terme aux injustices que tu as subies, que tu subis. Que lundi matin, en allant au travail, tu trouves que les choses ont été changées. Dieu a bousculé les événements. Il a travaillé en ta faveur. Désormais, tu es au rang de ceux qui bénéficient d'une parole de l'Écriture. Tu regarderas le lieu qu'occupait le méchant et tu ne le verras plus. Tu le chercheras, mais tu ne le trouveras plus. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui place, qui déplace et qui remplace. Laisse la colère. N'oppose pas ta chair à sa chair. Abandonne la fureur. Ce n'est pas comme ça que ton Dieu veut que tu procèdes. Et laisse-le te faire justice. Et si tant de temps tu as subi l'injustice, aujourd'hui Dieu dit, c'est assez. Lève-toi, Éternel. Et Dieu répond maintenant. Maintenant, je me. Quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Il écarte, il déblaye le terrain, il réagit. Et excusez-moi du terme, excusez-moi. Quand Dieu voit que le méchant va trop loin dans son injustice, Dieu le fait quitter la terre. Dieu le fait quitter la terre. Mets un terme à la malice des méchants, l'arrêt et la fin de l'injustice, pour qu'enfin, Seigneur, je puisse te glorifier en conséquence. C'est la troisième prière, hein? C'est ça, hein? Mais il y a une quatrième. Je vous la donne. Bien sûr. Le psaume 10, verset 17. Voulez-vous m'accorder un petit supplément? Je vous amène au psaume 10, mais avant d'aller au verset 17, je voudrais vous amener d'abord au verset 14. Psaume 10, verset 14. Regarde, tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Et puis, voilà la sollicitude du psalmiste. Brise les dents. Brise le bras du méchant. Et puis, continue, punis ses iniquités et qu'ils disparaissent à tes yeux. Je vous ai dit tout à l'heure que quand le méchant va trop loin, Dieu est capable de lui faire quitter la terre. Ce n'est pas ce que moi je souhaite, ni vous non plus. Nous ne voulons pas la mort du méchant. Mais ce que nous voulons, que nous souhaitons, que nous souhaiterions, c'est que le méchant se repente et qu'il vive. Mais quelquefois, il persévère dans son injustice et il fait du juste une cible. Et il le harcèle par ses propos et ses actions pour le rendre de plus en plus malheureux. Alors, continuons. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent au Éternel. Tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille. Pourquoi? Pour rendre,
pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé,
afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer
l'effroi. Vous savez ce que c'est que l'effroi? L'effroi, c'est une peur qui nous rebute, qui nous fait faire marche arrière. On craint d'affronter l'obstacle. On est tellement, concerné par la souffrance qui va en découler qu'on fait tout ce qu'on peut pour l'éviter. Je vous ai dit, quelquefois, on va au travail, mais à reculons. J'ai dit, maintenant, tu vas aller au travail avec joie.
Mais, frères et sœurs en Christ,
pour conclure, maintenant nous regardons le psaume 7, verset 10. Nous avons vu, mets un terme, psaume 7, verset 10, le psalmiste se dit, mets un terme à la malice des méchants.
Et aussitôt après, virgule, qu'est-ce qu'il dit?
Et affermis le juste.
Vous l'avez lu. Mais regardez avec moi encore, toujours dans ce que nous venons de dire, psaume 10, verset 17, il reprend, tu entends les vœux de ceux qui souffrent au éternel. Et aussitôt après, il dit, tu as fermé leur cœur. Ça veut dire que j'ai noté que dans ce que je suis, ce à quoi je suis confronté, ce que je vis, malgré ce que je vis, Dieu est capable d'utiliser l'injustice que j'ai subie
pour de mieux en mieux m'affermir.
Parce que frères et sœurs, vous savez, quand Dieu nous éduque, quand Dieu nous instruit, quand Dieu nous forme dans son école, il est capable de mettre à profit tout ce à quoi nous sommes confrontés, même l'injustice, pour nous faire tirer des leçons.
Parce que lorsque je suis victime de l'injustice, quand je la subis, Dieu me fait tirer des leçons pour que moi-même, je ne sois pas injuste à l'égard des autres.
Parce que faut souvent, frères et sœurs en Christ, si nous crions l'injustice parce que nous en sommes victimes,
mais Dieu voit, en grattant un petit peu dans nos vies, que quelquefois, nous sommes aussi les éléments des justices que subissent les autres. Mais Dieu, lui, va profiter de ça. Et j'ai noté, c'est une leçon que Dieu va nous donner à tirer. Une leçon de justice. Dieu va nous faire tirer une leçon de justice, surtout dans la pratique, dans l'injustice que nous avons subie, que nous subissons.
Écoutez, nous l'avons lu, hein? Mais un terme à la malice des méchants, mais affermis le juste. Ça veut dire dans l'injustice que tu subis, que tu vis, que tu as connue, Dieu va te faire rentrer dans une compréhension, dans une leçon spirituelle divine, pour que toi-même, tu sois au rang de ceux qui, comme Jésus l'a donné dans le sermon sur la montagne,
ont cette préoccupation. Cherchez, premièrement le royaume, mais aussi la justice de Dieu. Une fois que tu es membre du royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, la base du trône de Dieu, c'est la justice et l'équité, la droiture, mais aussi la justice. Et vous savez que Dieu a établi des magistrats, des juges qui sont chargés de faire respecter la loi. Le plus grand juge, je le connais, il s'appelle le Dieu Tout-Puissant, c'est mon Père. Le plus grand avocat, je le connais, il s'appelle Jésus-Christ. Mais puisque je suis un enfant de son royaume, alors il travaille afin que dans tout ce à quoi je suis confronté, que je peux connaître, cela soit bien à mon profit ou de l'autre côté, Dieu m'enseigne à tirer des leçons. Prions le Seigneur.